Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger.
Et bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à jeudi. Et en ce premier jour du mois d'août, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors, chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a marqué ou m'a inspiré dans la journée. Ce soir, j'ai choisi le mot « paresse ». Au-delà des vacanciers nombreux en ce moment, je pense que ce mot parle à nombre d'entre nous, n'est-ce pas ? Nous repoussons parfois, et peut-être même souvent, une action qui aurait été utile. Mais est-ce à tort ou à raison ? Dans notre jeunesse, on nous a fait croire que la paresse est un grand défaut qu'il faut combattre. C'est pourtant si bon d'être un peu paresseuse ou paresseux. En effet, dans notre société hyper sollicitante et hyper active, la paresse nous apporte souvent du repos, du calme et de l'équilibre. Cependant, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser et tomber dans la procrastination, la flemmardise ou encore la fainéantise. Et vous, comment gérez-vous votre paresse ? Êtes-vous toujours sur le qui-vive ou toujours paresseux ? Pensez-vous qu'il faille condamner la paresse à tout prix ? Appelez-nous au 3921 pour partager votre avis, vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Ils sont fidèles au poste, adorables et vous répondront au standard du 3921. Je parle bien évidemment d'Adrien et Bastien, et c'est Laurent Pellet qui réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
La libre antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Accueillons tout de suite Stéphanie. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive Stéphanie ?
Alors moi, je voulais ce soir vous raconter une histoire de violence conjugale dont j'ai été la victime.
Oui.
Et je suis en train de me relever doucement.
Bon, bah déjà, je suis désolée de ce qui vous est arrivé.
Et, merci.
Et tout oui pour écouter votre résilience.
D'accord. C'est un garçon que j'ai rencontré au travail. On est tombés amoureux assez rapidement. Et on s'est installés ensemble. On avait les mêmes envies. Au niveau but de vie, lieu de vie, voilà, donc ça allait assez vite. On pensait vraiment être tombé sur la bonne personne. Et...
Une évidence. Comme une évidence.
Voilà.
Ouais.
Ouais, à peu près ça. Enfin, ça se passait vraiment bien au début. Mmh. Et les violences et la jalousie maladive sont arrivées pendant ma première grossesse.
Stéphanie, est-ce que vous acceptez que je vous pose des questions ?
Oui, bien sûr.
Relative à cette période-là, ce qui n'est pas forcément
oui,
agréable.
Sûr.
D'accord. Vous avez rencontré cet homme il y a combien de temps ?
Alors, ça fait maintenant pratiquement 6 ans.
Et les premières violences sont apparues au bout de combien de temps ?
Donc, au bout de 1 an, pendant ma première grossesse.
Est-ce que... Il y avait des signes avant-coureurs où vraiment ça vous est tombé dessus, mais comme une masse ?
Ben, moi, j'ai rien vu. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, il y avait des choses à voir. Sur le moment, j'étais complètement amoureuse, j'avais les yeux fermés. Mais ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est-à-dire que j'ai réellement fermé les yeux, j'ai dû mettre des œillères sur des petits détails qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. À ce moment-là, j'avais des œillères parce que j'étais amoureuse.
D'où l'amour est aveugle, enfin rend aveugle, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, complètement. Donc, complètement dans mon cas.
Oui, bah, comme beaucoup d'ailleurs. Ouais. Comme beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, ses premières violences qui n'en avaient pas l'air, c'était des crises de jalousie pendant ma première grossesse, parce que bah, pendant un congé maternité, j'étais à la maison. Il s'imaginait que des hommes venaient me voir chez nous alors que j'étais enceinte. Bon. Et donc, c'était des cavalcades de violences, de
Verbal.
hurlements.
C'était de la
Viol
violence
oui, violence
verbale. Ouais.
verbale, psychologique, ouais. Provoquée par son alcoolisme. C'est-à-dire que c'était
Ah.
exponentiel, hein. Les soirs où il avait bu, c'était voilà, c'était exponentiel comparé à d'autres soirs où il n'avait pas bu, où il était quand même jaloux, mais où là j'arrivais à lui ramener un peu les pieds sur terre. À lui dire, eh oh, réveille-toi mon gars, c'est avec toi que je vis. Mais voilà, les soirs d'alcool, c'était invivable, quoi. Il finissait par partir. Pour ne pas me taper dessus, il finissait par prendre son KTM et partir, réveiller tout le quartier,
Ah
et il
oui.
partait dormir ailleurs.
Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque?
À ce moment-là, j'étais triste,
Ouais.
terriblement triste. Je dormais toute seule dans notre lit alors que j'étais enceinte, que j'avais besoin de lui énormément. J'avais un grand besoin de soutien, d'amour. Enfin voilà, c'est dur une première grossesse.
Bien sûr.
Et
En tout cas,
j'étais
c'est...
jaloux, et c'était complètement injustifié d'être jaloux de moi,
Ouais.
encore plus à cette période-là, parce que enfin, je l'ai jamais trompé, j'ai jamais donné sens à ce genre de doute. Enfin voilà, c'était complètement injustifié, encore plus alors que j'étais enceinte de 6, 7, 8 mois. Enfin, on s'imagine la baleine que j'étais échouée sur mon canapé toute la journée.
Bon, il y a d'autres images plus sympathiques, mais en tout cas, c'est pas comme ça que vous imaginiez votre première grossesse. J'imagine que
Ah, mais
c'était plus,
absolument pas.
voilà, dans le cadre plutôt à deux, dans un environnement sain, avec beaucoup
Oui.
d'amour, du soutien. Oui.
Voilà, là, c'était complètement l'inverse. Enfin,
Est-ce...
pas complètement, vu qu'il y avait des moments où il était sympa quand même.
Voilà, c'était la
C'est pour ça
question
que
que
je
j'allais vous
restais.
poser. Oui. Il y avait un peu d'éclaircie dans...
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça, ouais. Ça, en fait, ça faisait des hauts et des bas. Et je passais mon temps à espérer les hauts et à espérer que les hauts restent
Ouais, je
longtemps.
comprends, je comprends. Et ensuite?
Et ensuite, notre fille est née, notre premier enfant. J'ai repris le travail assez vite.
Qu'est-ce que vous faites dans
Et
la vie?
j'étais jardinière à ce moment-là. Là, je ne le suis plus.
D'accord.
J'arrive pas en fait. Comme il est jardinier aussi, j'ai l'impression que toutes les connaissances lui appartiennent. J'arrive pas à pratiquement mon métier.
Ah, vous n'arrivez plus à vous réapproprier, en tout cas,
Ouais,
ouais.
j'arrive pas à pratiquer mon métier. Ça m'appartient plus.
Je comprends.
Très difficile à expliquer.
Ça peut sembler en tout cas tout à fait logique par rapport à une forme de rejet total de ce qui a pu se passer. Et si en plus là, vous êtes dans une forme de résilience, forcément... Il y a des ancrages, il y a des gestes que vous faites, il y a des odeurs que vous qui reviennent, hein, et qui probablement vous rappellent des moments qui sont en lien direct avec avec cette période terrible que vous avez et dramatique que vous avez vécue. Donc forcément, on a envie de s'éloigner de tout ça. Vous avez votre première fille, il est présent ou pas près de vous?
Oui, il est présent. Oui, il est présent pendant l'accouchement aussi. C'était pas un accouchement facile. Il est présent tout le long. Il me soutient dans mon projet d'accouchement à domicile. Donc là, il est très présent à ce moment-là.
Et comment est-ce qu'il accueille sa fille?
Alors, il accueille. Oui, il l'accueille bien. Ah, excusez-moi, il y a mon bébé qui se réveille.
Oui.
Il y a le deuxième qui se réveille.
Ah. Alors, Stéphanie, moi, ce que je peux vous proposer, c'est vous vous
Oui.
occupez de vos enfants et vous nous rappelez plus tard. On vous attend de toute façon. Entre-temps,
D'accord.
on accueille d'autres auditeurs. Ça vous va?
Ok.
Oui?
Ah, ça y est, elle est dans mes bras, ça va mieux.
Ça va? Bon.
Désolée.
Non, non, mais... Oh ben non, je vous en prie. Non, non.
Un petit chou.
Les aléas du direct.
Oui.
Et puis comme ça, voilà, votre enfant est avec nous, il participe un petit peu.
Oui. Donc là, c'est le deuxième qui est avec nous.
D'accord.
Alors, on en était où ?
On en était à la question que je vous demandais, c'était que je vous ai posée, c'est comment est-ce qu'il a accueilli sa fille ? Vous nous avez dit bien, plutôt bien.
Oui. Voilà. Oui, plutôt bien.
Et malgré cette arrivée, ce moment extraordinaire, il a continué à boire ?
Oui.
Oui.
Oui, oui, oui. Il n'a jamais arrêté, en fait. Donc, jusqu'à ce que je quitte la maison, il n'a jamais arrêté de boire.
Donc un problème d'alcoolisme, manifestement.
Oui.
Ouais. Oui. Oui.
Ensuite, les hauts, les bas ont continué. Mais je gardais espoir. On a acheté ensemble, on a acheté une maison quand notre fille avait 1 an. La jalousie a continué, même là-bas. On est parti vivre à la campagne. Ça continuait, même en ayant un lieu de vie qui nous faisait rêver tous les deux. Ben, il n'arrivait toujours pas à avoir confiance. C'était une petite campagne. J'allais au marché acheter du fromage de chèvre. Et même ça, c'était compliqué parce que ceux qui vendent le fromage de chèvre, c'est des hommes, c'est des agriculteurs. Donc, à force, je m'interdisais même d'aller faire le marché.
Ah oui.
Je me suis complètement désociabilisée. Je ne sortais plus de ma petite maison. Et les cas de violence continuaient. La jalousie, il disait à notre fille, bientôt maman te présentera ton nouveau papa.
Oui.
Par exemple.
Stéphanie, pour quelles raisons est-ce que vous avez accepté ? À partir du moment où vous vous êtes rendu compte que cette relation ne vous élevait pas, pour quelle raison vous avez accepté ça ?
Ben, une fois qu'il y a eu notre fille, je me suis sentie piégée pour elle. Je culpabilisais de lui enlever son père. Je culpabilisais de devoir me séparer, d'avoir fait cette erreur, d'avoir choisi ce père-là pour elle. Et de devoir maintenant nous séparer et détruire la famille. Je culpabilisais encore aujourd'hui, et je culpabilisais terriblement. Ouais, je n'ai pas fini mon travail.
Oui, mais ça va venir tout doucement, forcément. Donc,
il y a une violence très forte aussi. Il a tiré au fusil sur le terrain. Il m'a secoué avec notre bébé, notre deuxième bébé. Je l'avais dans les bras. Il nous a secoué tous les deux pour me jeter dans l'escalier.
Donc, vous êtes partie quand même sur un deuxième enfant, un projet d'un deuxième, malgré
non,
tout.
Non, c'était pas un projet, en fait. Il n'était pas voulu, le second. Mais une fois que j'étais enceinte, j'ai pas avorté.
Et encore une fois, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
À quel moment ?
Quand quand vous avez appris que vous étiez enceinte ?
J'étais triste.
Ouais. Est-ce qu'au fond de vous, vous aviez envie de partir ou pas ?
Oui. Oui. J'en avais terriblement envie. Mais comme je vous dis, je culpabilisais pour ma fille. Et on avait monté un gros projet ensemble. Un projet presque agricole, c'est-à-dire que j'étais en train de monter un projet agricole sur le terrain. Donc, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup et auquel je tiens encore, hein, parce que là-bas, sur le terrain, y a tous les arbres qu'on a plantés, il y a mes tunnels, hein, c'est des serres agricoles. Y a tout le matériel pour créer une exploitation. Et je suis partie, j'ai laissé tomber tout le projet de ma vie.
Oui, donc il y avait beaucoup de choses à la fois sur l'aspect, je dirais, accomplissement professionnel et en même temps en tant que femme, en tant que mère qui jouaient finalement, qui ont influencé votre...
Juste quitter un petit copain, voilà. C'est détruire une famille, détruire un projet de vie. Pas simplement un projet professionnel, un projet de vie.
Donc le deuxième enfant arrive, qui est avec nous. Pareil, les violences, vous nous dites, il vous a secoué.
Pareil, ça continuait avec lui, mais toujours avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où leur papa allait bien, des périodes où j'arrivais, entre guillemets, à le rassurer, et des périodes où ça n'allait pas. Particulièrement les soirs de pleine lune, beaucoup la lune.
Et ça a été quoi le déclic ?
Le déclic.
Parce que là, je me dis.
Le déclic, il est venu assez tôt.
Ouais.
Le déclic est venu assez tôt, mais j'ai mis du temps à franchir le cap. C'est-à-dire que je le savais depuis longtemps que c'était pas possible, que je pouvais pas vivre dans cette violence et je pouvais pas accepter qu'on élève des enfants dans cette violence. Mais il me fallait du courage pour quitter tout ça.
Le fameux courage. Votre entourage, il était au courant, conscient de ce qui vous arrivait ?
Alors, oui, une petite partie. C'est-à-dire que j'appelais souvent mon père et sa femme et c'est eux qui étaient au courant de ce qui se passait. C'est eux qui nous ont accueillis une dizaine de fois pour venir nous réfugier chez eux. Et là, c'est chez eux qu'on vit depuis 8 mois.
D'accord. Donc vous êtes chez votre papa.
Ouais.
Ouais. Donc, vous avez porté plainte ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, j'ai porté plainte 2 jours après être partie.
Vous êtes partie parce que tout à coup, vous nous dites avoir trouvé du courage. Ce courage, ça a été quoi ? Ça a été
un soir de plus, en fait. Un soir de plus dans les violences. Mon vase était plein.
Ouais.
Et je lui disais que là, c'est plus possible. Enfin, vraiment, il manquait plus qu'une goutte. Et la goutte, c'était pas de la violence plus forte que d'habitude. Hein. Mais voilà, c'était juste un soir de plus. Ça durait. C'est-à-dire que là, ça faisait 3 jours que... il était dans un état extrême. Enfin, les veines sortaient de son visage changeait. J'avais plus la même personne face à moi. Il faisait ça régulièrement, mais là, ça continuait pendant 3 jours. Les enfants avaient peur, moi j'avais peur. On était terrifiés face à lui. Il enfermait notre fille dans la cave pour la punir dans le noir. Enfin, c'était assez terrible. Et là, depuis 3 jours. Enfin, depuis 3 nuits, je ne dormais pas. J'imaginais qu'il allait venir me tuer dans mon sommeil. Et je suis certaine qu'il est capable de le faire. Ensuite, il a fait beaucoup de menaces de mort. Notamment, il a dit à notre fille, « Bientôt, je vais venir voir maman avec un fusil pour lui régler son compte. » Bon, maintenant, il a interdiction de détenir des armes pendant 5 ans. Mais 5 ans, c'est bientôt.
Parce que c'était il y a combien de temps, tout cela ?
Cette menace de mort-là, c'était il y a 3 mois.
Ah oui, parce que là, vous nous dites que ça fait 8 mois que vous avez quitté le foyer.
Ouais.
Vous êtes réfugiée hein, chez votre père.
Je suis réfugiée chez mon père.
Et donc, il y a 3 mois.
Et lui vit chez nous. Il y a 3 mois, il continuait les menaces de mort.
J'ai pas très bien compris. Qui vit chez vous ?
Ah oui, lui, voilà. Mon ex.
D'accord. Je viens de comprendre. Donc, il vit chez vous. Ouais. D'accord.
Voilà. Il vit dans notre maison, il a gardé notre maison. Donc je paye toujours le crédit, ce qui m'empêche de me reloger.
Donc vous avez quitté la maison, vous avez porté plainte ?
Oui, il y a eu 4 plaintes du coup.
4 plaintes
8 mois. 4 plaintes, oui, parce que la première pour violence conjugale, ensuite 2 plaintes pour menace de mort, et 1 plainte parce qu'il a changé les serrures de la maison et de la boîte aux lettres pour m'empêcher de venir récupérer les affaires des enfants et mon courrier.
D'accord. Et quand vous y alliez, vous étiez toujours accompagnée, j'imagine ?
Non, j'y allais pendant ses horaires de travail.
Ah, d'accord. Ok. Avec, j'imagine, cette boule au ventre de tomber
ah
sur
oui,
lui.
Ah oui, ouais. Bah oui. Boule au ventre, puis de revoir mon lieu de vie, de revoir mes chiens, mes chats que j'ai dû abandonner, ses chevaux. C'est compliqué.
Je comprends. Je comprends et je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive, Stéphanie. Je peux imaginer la difficulté, la peine. Vous parliez de culpabilité également.
Oui.
On ne refait pas le passé. On ne refait pas le passé, forcément. Et quand on aime une personne, on ne peut pas avoir ce sentiment de culpabilité d'avoir aimé quelqu'un. Vous avez fait ce choix. Vous avez découvert une personne qui était certainement différente de celle que vous avez pu imaginer. Vraiment, j'aimerais tellement vous aider à comprendre que ce n'est pas de votre faute. Vraiment. Et vous l'avez dit au début, vous êtes bien une victime. Et je le dis pour toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont victimes de violences conjugales. Vous n'êtes pas fautif. Ce n'est pas de votre faute. Quand on va vers quelqu'un, quand on est soi-même très sain, on ne peut pas imaginer qu'en face, ça se passe mal. C'est vraiment... Et puis, en plus, quand on est sur des personnes qui, j'allais dire, narcissiques ou pervers narcissiques, ou en tout cas, ils sont tellement forts là-dedans, tellement bons à nous manipuler et à nous faire croire qu'avec eux, la vie va être magnifique, voire magique. Vous vous en voulez pourquoi ? D'y avoir cru ? Vous aviez le droit à du bonheur aussi.
Oui.
Ben oui.
Oui, j'espérais. Ben, j'espérais le bonheur pendant cette relation.
On dit que l'espoir fait vivre. Et c'est certainement ce qui vous a fait tenir pendant toutes ces années, 6 ans, après de lui. Avec, en plus, vous nous avez dit, il y avait des éclaircies, il y avait des projets. Donc... Il y a à la fois de l'autodestruction et en même temps de la construction. C'est pas évident tout ça, de trouver un juste milieu, de se dire mais elle est où la vérité entre ce fait d'avancer comme ça à deux, de construire, et puis d'avoir quelqu'un qui déconstruit tout en même temps. Mais alors, c'est la terre brûlée hein, pour le coup. C'est vraiment la terre brûlée.
Ouais.
Vous en êtes où alors aujourd'hui ? Il est où maintenant ?
Alors, il est où ? Bah, il vit toujours chez nous, dans notre maison. Mmh. Il bloque un petit peu la vente. C'est-à-dire qu'en faisant traîner les réponses de mail entre avocats interposés, voilà, ça bloque un petit peu la vente. Depuis, on est passé devant le juge des affaires familiales.
Oui.
Qui lui a enlevé l'autorité parentale. Il peut voir les enfants en lieu neutre, sous surveillance.
Et en lieu neutre, sous surveillance, il a osé exprimer le fait qu'il allait vous retrouver et
alors,
vous faire
ça,
passer un sale moment à votre fille.
Ça, il lui avait dit avant le lieu neutre. C'est-à-dire que pendant les deux premiers mois, il prenait notre fille chez nous un week-end sur deux.
Ouais.
Donc ça, c'était à ce moment-là, avant le lieu neutre. Parce qu'entre le moment où j'ai quitté la maison et le JAF, il s'est passé 3 mois.
Stéphanie,
le temps que la machine judiciaire se mette en route.
Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment ? Parce que ça reste vraiment le gros point d'interrogation à chaque fois quand j'entends des histoires comme les vôtres. Comment peut-on laisser ou donner un droit de garde à quelqu'un qui a commis des violences conjugales, comment peut-on laisser ou donner un droit de garde à des personnes qui sont violentes ? Comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication ? Moi, je ne comprends toujours pas. Vraiment, je ne comprends pas.
À ce moment-là, il n'y avait pas eu de jugement. Donc à ce moment-là, on n'était pas passé devant le JAF. Il avait autorité parentale autant que moi, donc je n'avais pas le droit de lui refuser. Vous voyez la nuance ?
Malgré les plaintes.
Malgré les plaintes.
Incroyable.
On n'était pas encore passé devant le juge, donc je n'avais pas le droit de lui refuser les enfants.
Ah, d'accord. Ok.
Voilà.
Oui, parce qu'il est... D'accord, je comprends.
Il était sous contrôle judiciaire déjà à ce moment-là. Ça, c'était dès la première plainte, à peu près un mois ou deux après, comme je vous dis, le temps que la machine judiciaire se mette en route.
Oui, parce qu'il est présumé innocent, en fait.
Contrôle... Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais.
Donc, il était quand même sous contrôle judiciaire, étant donné la gravité des faits, toutes les armes qui ont été saisies et les violences qui ont été quand même reconnues. J'ai eu un téléphone grave danger.
Ah, c'est ce dont parlait. Vous avez écouté la Libre Antenne la semaine dernière ?
Non.
Nous avons eu justement le témoignage d'une personne qui, comme vous, malheureusement, a subi des violences conjugales et elle a eu le droit également à ce téléphone.
Oui.
Qui vous le procure, qui vous le donne, ce téléphone ?
Alors, c'est le tribunal.
D'accord.
C'est une association d'aide aux victimes qui fait la demande, en fait. Du moment où on pose une plainte, on est dirigé vers des associations.
D'accord.
Différentes associations. Moi, cette association, j'y suis allée notamment pour un groupe de parole où j'ai rencontré plusieurs femmes, dans mon cas, sur ce groupe de parole. Et c'est cette association qui a un bureau au tribunal qui m'a fourni le téléphone.
D'accord.
Dans un tribunal.
Et ça s'appelle un téléphone ?
Grave danger.
Grave danger. D'accord.
Donc c'est un téléphone classique.
Mmh.
Voilà. Ça peut être un Samsung, un Nokia, quelque chose de très classique. Et qui a un bouton d'alerte.
Comment est-ce que vous faites pour essayer, je peux imaginer, essayer de retrouver de la sérénité et de la sérénité dans votre quotidien?
C'est le temps. C'est vraiment le temps qui fait. Vraiment, le temps, c'est le temps qui m'aide à oublier.
Et les enfants, comment vont-ils ?
Et les enfants vont mieux. La première est suivie,
ouais.
Écologiquement, ça va mieux. Moi aussi. Et le petit, il a 19 mois maintenant.
D'accord.
Donc, par chance, il n'a pas trop eu le temps d'être traumatisé. Voilà. Le petit va bien.
Votre fille, ouais, vous l'avez sentie perturbée.
Ah oui, complètement.
Ouais.
Complètement. C'est des cauchemars horribles. Elle se réveillait les premiers mois, elle se réveillait chaque nuit. Les deux enfants d'ailleurs, se réveillaient dès que je quittais la pièce. On est hébergé dans une chambre chez mon père. Et donc, dès que je quittais la pièce pour aller aux toilettes ou faire quoi que ce soit dans la nuit, les deux enfants se réveillaient pendant plusieurs mois.
Ils devaient être même très collés à vous d'ailleurs.
Oui, oui, très, très, très collé à moi. Ouais. La grande était un petit peu apeurée pour un oui, pour un non. Mais l'avantage, c'est qu'elle verbalise. Elle parle, elle dit vraiment les choses qui lui font peur. Elle le dit très clairement, donc ça nous aide à travailler dessus.
Oui. Bon,
récemment, elle a émis la peur, c'était la semaine dernière, elle a émis la peur que papa puisse encore venir me tuer.
Ah oui, en effet. Oui, il va y avoir un peu de temps avant de cicatriser émotionnellement, déjà.
Ouais.
Et vous, est-ce que, par rapport à ce que vous nous disiez au tout début, quant au fait que vous avez du mal à retrouver votre travail, est-ce que vous avez trouvé des solutions psychocorporelles pour vous faire du bien? Alors, psychocorporel, c'est-à-dire du yoga, de la méditation
Oui, un petit peu. Avant de retravailler, parce que maintenant je retravaille, alors j'ai plus l'occasion de faire ce genre d'activité, j'ai plus le temps. J'ai une vie 200 à l'heure, une maman célibataire. Mais j'ai fait sur la plage. J'oublie le nom. Enfin, c'est un peu du yoga, non, du stretching.
Oui, très bien.
Voilà, c'était très agréable.
Est-ce que vous sentez que vous recommencez à prendre goût à certaines choses, à vous reprojeter, à aller vers de la, voilà, de la visualisation positive, hein, on appelle ça de la visualisation positive. Donc est-ce que voilà, vous reprenez de l'espoir
Alors oui, mais c'est tout récent. Voilà, vous m'en parlez pile au moment où ça arrive.
D'accord.
Et voilà, c'est tout récent. D'ailleurs, l'association qui m'a fourni le TGD va peut-être me loger.
Ah, très bien.
Dans les jours qui arrivent. Donc, je vais peut-être avoir un logement à moi, pour moi et les enfants. Donc, ça va être un nouveau départ, hein, comme on dit.
Oui, vous allez ouvrir le champ des possibles. Fantastique.
Voilà.
Ouais. Mmh. Ouais, ça, c'est une bonne chose pour vous. Ça va être vraiment...
voilà.
Ça va vous permettre de vous reconnecter et à vous-même. Et puis, d'avancer, de continuer à aller de l'avant.
Oui, 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 tout à fait. Mais ça, ouais, comme je vous dis, c'est vraiment tout neuf parce que j'ai fait quand même, je pense, une grosse dépression. Ça a duré, hein, je pense, 6 mois.
Oui. Vous continuez à être accompagnée
Oui, un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu, mais je n'en ai pas trop le temps étant donné que je travaille.
Mmh. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Je suis serveuse dans un restaurant.
D'accord. Ah, très bien. Donc, le contact.
Oui, voilà.
Ouais.
J'avais besoin de ça.
Ah oui. Ah ouais, très bien. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est le plus
j'avais
important.
J'avais besoin d'un métier léger.
Ouais. J'aime beaucoup votre notion de la légèreté avec les amplitudes horaires, le rythme. Très bien. C'est sûr que c'est peut-être plus léger par rapport à ce que vous faisiez avant.
Ouais.
Stéphanie, merci infiniment pour ce vraiment ce témoignage très fort, très poignant. Forcément, je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre, donner aux auditeurs qui malheureusement vivent la même chose et ne trouvent pas ce courage que vous avez eu.
Voilà, mon message, c'est un message d'alerte. Ne restez pas si vous êtes dans mon cas et ne tombez pas dans ce genre de filet.
D'accord. Merci Stéphanie. Je vous souhaite,
merci à vous.
Nous vous souhaitons le meilleur et vraiment la Libre Antenne est votre émission, donc donnez-nous de vos nouvelles, nous serons ravis de vous avoir. Alors, juste avant de partir, de nous quitter, vous avez reçu un SMS. Alors, il n'est pas signé, mais je vais vous le lire. Donc, je le découvre en même temps que vous. Bonsoir.
Oui.
Face à des personnes aussi toxiques et incontrôlables, il n'y a que la fuite possible pour vous protéger et protéger vos enfants. Vous finirez par vous reconstruire. Faites-vous suivre par un thérapeute bienveillant, la kinésiologie. C'est ce que l'auditeur
D'accord.
vous recommande. Au 7 39 21. Merci infiniment et vraiment Stéphanie,
merci beaucoup.
Nous vous souhaitons le meilleur.
Merci, bonne soirée.
À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Et tout de suite, nous accueillons Leïla. Bonsoir Leïla.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Oui, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Mais c'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive, chère Leïla?
Alors, moi, je voulais que vous et les auditeurs, peut-être, m'aident à m'éclairer sur une relation.
Mmh.
Voilà, j'ai rencontré, j'ai 63 ans.
Oui.
J'ai rencontré un homme il y a maintenant un peu plus d'un an.
Mmh.
Et il s'avère que, bon, il travaille beaucoup. Voilà, il travaille beaucoup. Bon, au début, il me disait qu'il travaillait beaucoup parce qu'il aime pas rester sans rien faire. Et puis, avec le temps, il a appris à me connaître et tout. Il s'est confié. Et il m'a dit qu'il aide. Il a deux nièces, oui, qui font des études. Et comme il a pas d'enfant, lui, il s'est un peu, il est très très proche d'elle, donc il les aide dans, pour continuer leurs études.
D'accord.
Alors, bon, c'est pas ça qui me gêne, hein. C'est le fait, bon, que je me suis dit, j'ai 63 ans, si je dois continuer encore, voilà, être privée de sortie, privée de faire des voyages, privée... C'est un peu ma vie que je mets de côté, quoi. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus libre.
Ouais, je comprends. Je comprends.
Voilà. C'est pas le fait... Bon, au contraire, je trouve que ça, c'est très, très bien de sa part voilà, d'être là pour elles, mmh. parce qu'elles n'ont pas, pas de père qui est responsable. Et donc, il fait l'office de père, quoi, de père. Mais à la longue, je trouve, au bout d'un an, je trouve que c'est difficile, quoi. Pour moi, c'est difficile. Parce qu'il ne s'arrête pas de travailler, il ne prend pas de vacances, il ne veut pas... Voilà, il ne lui reste rien, quoi. À la fin du mois, il ne peut même pas faire un resto. Alors, je me demande si je dois continuer ou pas, ou peut-être je me dis si je dois attendre un an, deux ans, peut-être bon, ces filles vont avancer dans la vie, être un peu ouais. plus autonomes. Alors je ne sais pas, parce qu'après il a beaucoup de qualités.
Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Plutôt que de nous demander s'il faut arrêter, j'ai envie plutôt de vous poser la question, pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait continuer ?
Mais parce qu'il a beaucoup de qualités, voilà, c'est quelqu'un d'honnête, de sympathique, de généreux aussi, puisque voilà.
Quand il a des sous.
Oui, comment ?
Quand il a des sous.
Oui, oui, voilà, mais bon, là, il ne peut pas, parce que bon, il ne peut pas, quoi, se permettre de faire des choses avec moi, parce qu'il se sent responsable de ses deux filles.
Oui.
Donc, ce n'est pas ses filles, c'est des nièces. Mais bon, je trouve que c'est formidable quoi, de penser comme ça.
Oui, bien sûr.
Mais en même temps, moi, je me dis, bon, ce n'est pas la mienne de vie. Voilà, moi, j'ai mes enfants qui sont grands, ils travaillent tous, ils sont autonomes. Je peux enfin respirer, souffler.
Bien sûr.
Profiter. Alors, oui. Et en même temps, comme je vous dis, il a des qualités humaines que...
Alors, Leïla, voilà. C'est intéressant parce que là, on a posé le contexte, on a posé le cadre. Arrive bientôt le journal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause pendant le journal et on se retrouve juste après pour entrer
D'accord.
dans le vif du sujet. Ça vous va ?
Oui, très
ouais,
bien.
Très bien.
Merci, Sonia.
Alors, à tout de suite.
Europe 1. La Libre Antenne, Sana Blanger.
Europe 1, c'est toujours la Libre Antenne jusqu'à minuit. Merci de votre fidélité. Et si vous nous rejoignez, vous pouvez nous joindre au 3921 pour passer en direct comme Leïla qui était avec nous juste avant le journal. Le Flash Info, chère Leïla, comment ça va depuis 3 minutes ?
Ça va, merci.
Bon, donc Leïla, vous nous avez expliqué avoir rencontré un homme il y a un an, un homme très dévoué pour sa famille et notamment ses deux nièces dont il s'occupe parce que lui-même n'a pas d'enfant et manifestement a fait un transfert. Bon, ça se passe plutôt, on peut dire, bien, mais ça n'est pas à la hauteur de vos attentes ou en tout cas de ce que vous pouviez imaginer d'une vie à deux.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, en fait, comment vous l'avez rencontré déjà cet homme ?
Sur un site de rencontre, mythique, voilà.
D'accord.
Bon, on a beaucoup parlé au téléphone pendant au moins 3 mois. Hein. Je l'ai rencontré qu'au bout de 3 mois physiquement. Mm-hmm. Voilà, c'était à l'époque qu'il y avait la fin du virus, la fin de. Et donc après, bon, on a appris à se connaître et voilà, petit à petit, la relation a évolué. Et voilà. Après, je lui ai présenté mes enfants. Voilà. Après, il est très agréable, vous voyez. Il est très agréable, il est très humain.
Oui, c'est ce que vous nous
disiez. Il est respectueux.
Bien sûr.
Voilà. C'est ses qualités. Je ne peux pas les perdre non plus. Parce que bon.
Alors.
Et en même temps, voilà, comme je vous dis, je suis un peu. J'ai peur de faire une bêtise aussi, de le laisser et que, voilà, je ne retrouve pas une personne
comme ça. Alors, la rencontre hein, est normalement un espace d'évolution où la complémentarité est de mise donc pour s'épanouir et puis tenir dans le temps. Donc ça, c'est important. L'amour, si on parle vraiment de relation, c'est vraiment aider l'autre à se développer, à donner le meilleur de soi. Et tout ça, ça se construit ou ça se bâtit sur un socle de compatibilité. Donc, est-ce que vous avez eu dans la période de justement d'échange au départ, est-ce que vous aviez déjà analysé les compatibilités que vous aviez ou que vous avez ?
J'ai pas très bien cerné votre question.
Alors, je vous disais qu'une rencontre, c'est également un couple qui se construit sur un socle de compatibilité. La compatibilité de ses envies, de ses attentes.
On est du même âge, on a le même âge, à 2 ou 3 mois près. On a des mêmes attentes. On parlait de voyager, de pouvoir. J'ai dit, mes enfants sont grandis, quoi, ils sont autonomes, ils ont leur propre famille. J'avais envie de ça, quoi. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'au début, il m'a dit, est-ce que ça va t'embêter que je travaille beaucoup parce que c'est vrai qu'il est amené des fois à travailler, même les week-ends.
Vous ne vivez pas ensemble ?
Non, on ne vit pas encore ensemble, non, pas encore. Je n'ai pas voulu précipiter ça, mais on se fait des longs week-ends. Des fois, ils viennent quelques temps, parce qu'on n'habite pas à côté, en fait. Mm-hmm. Il y a 90 kilomètres entre les deux départements.
Oui.
Donc, on se voit, mais ce n'est pas toute la semaine qu'on ne vit pas ensemble.
D'accord. Alors,
mais on se parle tous les jours au téléphone.
Vous avez déjà une réaction qui se fait au 739-21 par SMS. Hein, j'invite les auditeurs d'ailleurs à participer pour vous aider, chère Laïla, à trouver la réponse. Bonsoir, cet homme est extraordinaire d'aider ses nièces dans leurs études et c'est son choix. Alors si c'est un problème pour vous, cherchez un autre homme qui sera plus disponible pour vous et c'est Mamie Tam Tam, que j'embrasse, qui est une fidèle auditrice, qui vous envoie ce message. Qu'est-ce que vous en pensez ? Assez tranché, hein ? Boum !
Oui, je pense que je me l'ai posé cette question. Oui, c'est vrai. Je me l'ai posé cette question. Mais bon, je ne sais pas, je suis partagée. Voilà, je suis partagée. Je suis partagée. Parce que je me dis, bon, peut-être dans 2 ans, parce que bon, elles achèvent bientôt leurs études. Alors, après, il faut qu'elles trouvent peut-être un poste, un travail, quoi. Mais je me dis, peut-être 3 ans, 4 ans, ça peut le faire. Je peux patienter.
Alors, Laïla, je comprends et j'entends ce que vous dites. Maintenant, il faut quand même trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tout y avoir pour ses nièces et rien pour vous. Ça n'est pas possible.
Eh oui, comprends ce que vous venez de dire.
Bah oui. Il faut quand même un juste milieu. Moi, ce qui m'embête dans ce que j'entends, vous nous avez quand même dit qu'à la fin du mois, il restait plus grand-chose pour vous permettre des sorties, ne serait-ce qu'un restaurant. Mais en revanche, il y a tout pour les nièces. Je comprends, c'est très louable de sa part. Mais et lui ? Et lui, il s'épanouit comment ? Il passe son temps à travailler, à s'occuper de ses nièces. Et vous, alors, quelle place vous occupez ?
Voilà, quand on se voit, on se voit. Mais c'est vrai que oui, voilà. J'ai pas grand-chose, oui, c'est vrai. Bon, après, j'ai son amour. Il me le montre.
Son affection.
Voilà, il m'amène des fois des fleurs. Voilà, son attention. Mais...
Alors, c'est en cela que ça vaut peut-être vraiment le coup de se poser pendant un moment agréable, hein, surtout pas pendant un moment de frustration ou d'énervement, un moment agréable pour qu'il puisse lui-même être dans cette bulle avec vous de plénitude et d'échanger et de lui dire ce que vous aimeriez faire avec lui et comment améliorer la situation. Donc d'être plutôt dans quelque chose de positif, donc une visualisation, quelque chose de positif, mais pas d'aller vers « je n'ai pas assez, je manque, tu pourrais », vous voyez, pas quelque chose qui pourrait le braquer, mais au contraire, de profiter de ce moment agréable pour mettre en place des projets plus épanouissants, à la fois pour vous et également pour lui.
Et oui, c'est que j'ose pas le lui dire. Je ne sais pas comment le lui dire.
Alors, voilà, ça c'est important parce que, attention, peut-être que vous êtes de nature à garder les choses pour vous et de commencer à créer un espèce de petit millefeuille de petites qui finissent par de la rancœur, vous voyez ? Où à la fin, c'est terminé, on plie bagage, merci, au revoir. Donc c'est quand même dommage. Surtout qu'il ne comprendrait pas tout à coup que ça explose et que vous lui disiez, voilà, je veux ça, je ne suis pas contente. Exprimez les choses, c'est important, la communication. Des petites fleurs, des week-ends que vous passez ensemble, il y a quand même des actes, des actions de sa part qui prouvent que, voilà, il est bien avec vous.
Oui. Oui, ça, il me le dit qu'il est bien, voilà, qu'il ne voudrait pas me perdre, bon. Mais en même temps, c'est difficile j'ai peur de ça. Enfin, c'est pas que j'ai peur, je me dis que si moi, j'avais des enfants qui étaient comme ça, peut-être, j'aimerais pas qu'on me dise, n'aide pas mes enfants, quoi. Me mets à sa place, voilà, je me mets à sa place.
Bien sûr, j'entends. Et ce n'est pas votre propos. Votre propos, c'est juste de dire, je suis là et j'ai aussi envie, pas besoin, envie que nous partagions un petit peu plus de temps ensemble. C'est ça le message. C'est pas de lui dire d'arrêter de s'occuper de ses nièces. Vous l'avez déjà répété deux fois. Vraiment, rassurez-vous. Vous avez tout à fait, vous êtes légitime et c'est normal. C'est une façon de dire, voilà, je passe de bons moments avec toi et j'ai envie d'en passer encore plus parce que potentiellement, on s'entend vraiment bien tous les deux. On passe de bons moments et j'ai envie vraiment que nous en profitions autant l'un que l'autre. C'est ça votre message ?
Oui. Oui.
Enfin, je crois.
Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, oui. C'est passer un peu plus de temps ensemble et puis s'offrir des, comme vous me dites, des week-ends ou voilà, ou une sortie ou... Et alors en même temps, j'ai très peur, je me dis que c'est... et c'est ça qui me fait peur aussi de m'installer avec lui, c'est d'avoir peur d'avoir à subir toutes les charges moi-même.
Alors suivez votre... bien sûr, donc suivez votre intuition, suivez votre intuition. Alors, je regarde l'écran et nous avons reçu un autre SMS. Donc, je le découvre en même temps que vous. Donc, bonsoir Sana et Layla. Sana, quelle joie de vous retrouver. Oh, c'est gentil, merci. J'attendais lundi avec impatience pour ce plaisir. Alors là, je ne comprends pas le... Ah, Layla, à mon avis... Ah voilà, donc elle s'adresse à vous. Layla, à mon avis, fuyez cet homme qui sacrifie sa vie pour ses nièces. Profitez de votre vie pour vous, on n'en a qu'une. Christia, donc c'est peut-être Christiane, probablement Christiane. Merci Christiane. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça fait déjà deux personnes qui me disent ça quand même.
Et je suis la seule. Moi, je suis la team.
Et vous?
La team, donc l'équipe de l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. De oui. L'équipe de la team de il y a quelque chose qui s'est construit et il y a probablement quelque chose qui est possible de avant tout de corriger. Avant
oui,
tout de corriger.
Oui.
Voilà.
C'est vrai.
Parce qu'il y a quand même de la confiance entre vous, vous vous sentez bien avec lui. Ça, c'est ce que vous nous dites, hein, d'accord?
Oui,
donc,
oui, c'est ça.
Avant d'aller vers, effectivement, autre chose, peut-être que d'abord, essayez de remettre le curseur au bon endroit, de trouver de l'équilibre, de l'harmonie, autant pour vous que pour lui. C'est peut-être intéressant avant de, effectivement, aller rechercher un autre homme comme le propose Mamie Tam Tam ou de fuir comme vous le suggère Christiane.
Oui, c'est franchement des questions que je me pose quoi. J'ai peur de le laisser parce que je connais ses qualités. Je suis bien quand je suis avec lui. J'ai confiance aussi.
Ouais.
Il est honnête. Bon. Alors j'ai peur de perdre tout ça.
Je comprends. Si d'autres auditeurs souhaitent réagir au 739-21, hein, donner votre avis, votre point de vue à Leïla, vraiment, je vous invite à le faire. Leïla,
oui.
Si je vous dis, bon, allez, quittez-le et trouvez-vous un autre homme. Est-ce que vous vous sentez
non,
vraiment
je pourrais
prête
pas.
Ouais.
Non, parce que... Je ne pense pas que je serais prête à le faire, non. Et puis moi, j'ai besoin de temps pour connaître quelqu'un. Alors, j'ai appris à le connaître, j'ai 63 ans, je me dis, je ne vais pas re... J'ai mis du temps pour rencontrer cette personne, parce que ça fait plus de 10 ans que je vivais seule. Voilà, donc je n'ai jamais rencontré... Une personne comme ça, quoi, avec ses qualités, voilà.
Bon, alors si vous lui reconnaissez des qualités, eh bien, je vraiment, dans ces cas-là, je vous invite à communiquer avec cet homme, vraiment. Mettez-le à l'épreuve de sa capacité d'intelligence, à la fois émotionnelle et relationnelle, donc cette affection qu'il a pour vous. Peut-être qu'effectivement, lui-même... face à ce que vous allez lui dire, aura les mêmes réactions, ou en tout cas les mêmes ressentis que vous, à se dire « Bon, ça fait quand même un an qu'on est ensemble, on est en train de construire quelque chose. » Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, là, plutôt, mettez-le à l'épreuve. Vous en êtes totalement légitime, puisque vous êtes officiellement sa petite amie. Et en même temps, Je peux comprendre le paradoxe de se dire bah, « on n'a qu'une vie, elle est courte et à 62 ans, bon bah... »
Eh oui, c'est...
Voilà.
C'est tout le paradoxe. J'ai peur de le perdre et en même temps... alors c'est pour ça que j'avais besoin de vous parler, d'avoir voilà, des conseils ou de m'éclairer, peut-être me rassurer aussi, sur ce que moi je pense.
Ouais. Et donc
voilà.
Qu'est-ce que vous décidez alors?
Eh bien moi je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser parce que j'ai peur de ne pas retrouver quelqu'un comme ça parce qu'il est très intéressant autant dans le dialogue autant voilà dans les qualités quoi qu'il a.
D'accord. Donc, vous me rassurez quand même. Hein. Vous n'êtes pas en train de nous dire...
Je l'aime aussi.
Voilà,
et je sais qu'il a beaucoup d'amour pour moi.
En tout cas, vous n'êtes pas en train de nous dire que vous restez avec lui faute de ne pas vous trouver quelqu'un d'autre. C'est vraiment parce qu'il a des qualités.
Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non. Non, c'est pas que je n'ai pas essayé. Bon, je suis avec lui, je n'ai pas cherché ailleurs.
Ouais.
Mais... Les qualités qu'il a me plaisent beaucoup, par contre. Alors, j'ai peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre comme ça aussi.
Je comprends. Alors, ça réagit pas mal hein, au standard du 739-21. Merci infiniment pour vos SMS. Alors, pour le moment, ce sont des avis féminins. Si éventuellement on pouvait avoir un avis masculin, ce serait formidable. Messieurs, réagissez s'il vous plaît et dites-nous ce que vous en pensez. Alors, Laurence vous dit bonsoir. Quel âge ont les nièces de ce monsieur?
Alors, il y en a une qui a 26 ans et l'autre, elle a 28 ans.
D'accord. Je vous poserai une question après. Si, quoi que je veux vous la poser maintenant. Est-ce qu'il vous a déjà présenté à sa famille?
Oui.
D'accord.
Oui. Donc, il m'a présenté sa maman, sa sœur, sa nièce aussi, une des deux nièces. Parce qu'une vit au Canada, elle fait des études au Canada et l'autre à Paris.
D'accord.
Donc, oui, il m'a présenté toute sa... Enfin, ses proches, quoi. Voilà. Et moi, il a rencontré mes enfants. Et mes filles, elles l'adorent.
D'accord. Ah bah tiens, justement, il y a un SMS qui est arrivé en même temps. Bonsoir mesdames, Leïla, cet homme vous a-t-il présenté ses fameuses nièces? Ça y est, on a anticipé la question. Donc, ouais. Alors, je reviens sur le SMS de Laurence. Quel âge ont les nièces de ce monsieur? Donc ça c'est fait. Cet effort est peut-être temporaire. Je conseille à Leïla de faire preuve de patience, mais à plus s'ouvrir et exprimer son ressenti bien amicalement. Laurence, que je salue également, qui participe souvent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, c'est ma pensée, ça je l'ai pensé, je vous l'ai dit, enfin, je crois au début, je me dis que peut-être que ça sera sur du court temps et qu'après ça sera résolu, quoi, leur situation.
Bon, en tout cas, vous avez su être convaincante puisque Mamie Tam Tam revient sur ce qu'elle vous avait dit. Elle vous avait dit dans un premier temps, trouvez-vous un autre homme. Et puis finalement, elle vous dit, avez-vous parlé avec lui de vos inquiétudes? J'entends votre attachement et le sien. Alors investissez-vous dans sa démarche. Bonne chance. Voilà.
Ah, non. Donc, oui, je suis arrivée à la convaincre.
Le plus important, surtout, c'est que vous arriviez à trouver la réponse. Oui. Et j'espère vraiment que notre échange vous aura aidé, éclairé, en tout cas, sur...
Non, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, franchement. Sana, ça m'a beaucoup aidé.
Bon.
Parce que c'est un peu ce que je pensais. Voilà. Mais j'avais besoin de... comme éclair. Voilà, comme éclair, et que je n'en voyais pas tout promener sur des questions comme ça.
Oui, je comprends. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire?
Je pense que je vais poursuivre.
Et surtout
être patiente. Surtout qu'il ne m'empêche pas, de partir, d'aller voir mes enfants, si je veux aller faire un voyage avec mes enfants, il ne m'empêche pas. Donc, en même temps, vous voyez, il est compréhensif, quoi. Il comprend.
Donc, moi, je peux... exprimez-vous, chère Leïla. Communiquez avec cet homme et dites-lui ce que vous avez vraiment sur le cœur. C'est très important, de façon à ce que ce cœur soit partagé avec le sien. D'accord?
D'accord, Sana.
Et donnez-nous de vos nouvelles. Je le dis très souvent. On ouvre un nouvel épisode avec vous. Donc, saison 1, Leïla et son chéri. Donc, donnez-nous de vos nouvelles.
D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Sana. Vous m'avez été très, très rassurante.
Ainsi que donc Christiane, Mamie Tam Tam, Laurence.
Ainsi que les auditrices. Parce que je n'ai pas retenu tous les prénoms, donc je vous dis les auditrices.
Merci à vous. À très bientôt.
Merci,
Leïla.
Sana.
Et profitez bien.
Merci beaucoup.
Je vous en prie avec plaisir. Au revoir.
Au revoir, Sana. Bonne soirée.
Merci. Nous venons d'écouter Philippe Campion avec Ces années-là sur Europe 1. Et nous accueillons tout de suite Paul. Bonsoir, Paul. Paul, est-ce que vous êtes là?
Je suis là. Vous m'entendez?
Oui. Bonsoir, Paul.
Allô? Oui, bonsoir. Vous m'entendez?
Oui. 5 sur 5.
Ah, c'est bien, moi aussi.
Qu'est-ce qui vous arrive, Paul?
Ah, déjà, j'étais un peu pris de court parce que je ne m'attendais pas à être appelé. Et là, À minuit moins 7, là, il est moins 5 maintenant.
Alors, je vous rassure, si vous écoutez la Libre Antenne, nous allons démarrer ensemble. Et si vous êtes encore disponible demain...
Oui, mais je connais le principe. Hein.
Ah, vous avez déjà... Je vous ai déjà...
Ouais, ah oui, puis j'écoutais votre précédent témoin.
Oui.
Ça m'a rappelé des souvenirs personnels, parce que moi aussi, j'étais partie d'une association célibataire.
D'accord.
Et... Il y a longtemps, déjà, maintenant.
Et qu'est-ce que vous en gardez comme, comme souvenir?
Ouais, d'assez bons souvenirs, parce que c'était une bonne expérience. Et puis, là, c'était une association, on était une centaine de personnes.
Mmh.
Donc, ici, dans le Finistère, dans le grand port du Ponant.
D'accord, bien sûr, bien sûr.
Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de renouvellement, c'est-à-dire que les gens ont vieilli. Alors, on faisait beaucoup de randonnées, hein, tous les dimanches, pratiquement.
Mmh.
Et puis, les gens ont commencé à fatiguer, 70 ans et plus. Et puis, comme il n'y avait pas de renouvellement, l'association a disparu petit à petit, comme ça, quoi.
D'accord, bon.
Voilà.
Ouais.
Et après, c'est compliqué. Moi, j'ai une vie extrêmement compliquée.
Alors, Paul, justement. Paul, je vous ai déjà eu en ligne.
Oui, oui, je suis l'homme aux mille clichés.
D'accord.
Vous vous souvenez? C'est un peu normal que j'ai 25 ans de photographie derrière moi.
Bon. Ouais. Eh bien,
j'en ai pas.
Eh bien, merci de nous redonner de vos nouvelles. Est-ce que... Sur le temps qui nous reste, est-ce que vous voulez... j'ai plutôt envie de vous dire de quoi est-ce que vous avez envie de nous parler ce soir.
En fait, je pensais qu'on vous aurait transmis... parce que j'avais contacté déjà Fabien. Et en fait, c'était par rapport aux conséquences psychiques par rapport au traumatisme infantile.
Oui. Que vous avez subi, puisque vous étiez maltraité vous-même.
Tout à fait. J'en ai parlé aussi avec Olivier Delacroix.
Oui. Et quel était exactement l'objectif de... Ou quels sont à chaque fois l'objectif de vos appels, en fait? Hormis libérer la parole, forcément.
En fait, moi, je suis dans... C'était aussi un des thèmes que je vous posais, parce qu'en fait, je me trouve dans un deuil impossible. Et les gens ils comprennent pas ce que c'est qu'un deuil impossible. Il y a plusieurs qui se disent, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, on arrive à tourner la page.
Mmh.
Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Non, c'est vrai.
Moi, je ne peux pas tourner la page, c'est impossible. Je suis dans un deuil impossible et ma reconstruction est impossible.
Vous avez testé pléthore de méthodes, de techniques pour essayer justement de... Ce n'est pas la volonté qui vous manque.
On en avait parlé, le MDR, l'hypnothérapie, tout ça. Mais justement, je ne sais plus si c'est à vous que j'avais dit. Parce que mes deux frères, eux, ils ont pu se reconstruire plus ou moins grâce à l'expatriation.
Absolument.
On change de pays, on change de culture, on change de langue, on change tout.
Oui.
Et là, ça permet de tourner la page. Et ne plus se replonger dans le passé. Or, moi, je vis toujours dans la même ville.
Oui.
Donc, il y a le stress post-traumatique qui est là aussi.
Paul,
en fait, je voulais... j'entends la musique, là.
Oui, on se retrouve demain, 22h.
Il n'y a pas de souci.
Ah, super.
Et donc, parce que je voulais lire, parce que moi, j'ai écrit deux livres et 80 textes environ.
Donc je vous donne rendez-vous demain, ouais. Paul, à 22h. Un grand merci à Stéphanie, Leïla, Thierry et donc Paul que nous retrouverons demain soir à 22h. Vous avez tout de suite rendez-vous avec le programme de la nuit. Je vous souhaite donc une douce nuit.